Biji biji ro java.
Biji biji ro java.
Biji ro java ye Kurdistan'e.
Biji ro java ye Kurdistan'e.
Bienvenue au Rojava, un Kurdistan devenu autonome après le soulèvement contre Bachar el-Assad en 2011. Les Kurdes avaient alors profité de l'affaiblissement du régime syrien pour prendre le contrôle d'un territoire grand comme le Danemark.
Et pendant ce temps, en Syrie, on va voir ce que devient le Rojava, d'autant que le pire est à craindre avec la menace d'une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie. Alors, à la base, j'y suis, on a déjà consacré plusieurs émissions au Rojava, notamment avec des volontaires français qui sont partis se battre pour le Rojava dans des bataillons internationaux. Mais on va quand même commencer par rappeler ce qui se passe au Rojava, parce que cette région est le théâtre d'un jeu assez complexe de relations géostratégiques multiples, variées, et qui ont l'air parfois contradictoires. Alors, Mireille Cour, vous êtes journaliste. Vous êtes membre de la coordination Solidarité Kurdistan. Vous êtes allé plusieurs fois en Syrie du Nord et voir les Kurdes depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le Rojava ?
Alors, le Rojava, qui s'appelle maintenant en fait la Fédération démocratique du Nord de la Syrie, c'est le nom officiel. C'est une région qui se situe au nord de la Syrie, qui est frontalière avec la Turquie et aussi avec l'Irak. Et pour expliquer un peu ce qu'est le fonctionnement du Rojava, c'est quelque chose qui a été mis en place progressivement chaque fois qu'un territoire était libéré de l'État islamique par les YPG.
Les unités de protection du peuple.
Les unités de protection du peuple et les YPG, unités de protection des femmes. Et chaque fois qu'une ville, qu'un village, qu'une région était libérée de l'État islamique, se mettait en place ce qui a été théorisé comme le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire un système de démocratie directe à la base, avec des assemblées, en fait, par quartier, par village, où les gens désignent leurs représentants, qu'ils envoient comme représentants au conseil législatif, aux différentes instances. Et une des caractéristiques très importantes de ce système, c'est l'exigence de parité totale. Chaque fois qu'il y a une association qui se forme, des responsables qui sont désignés, il y a automatiquement un homme et une femme. Donc, chaque fois qu'une zone était libérée, était installé ce système d'expression directe des citoyens. Et un autre aspect important qui a été tout de suite mis en place, sous la forme d'une espèce de constitution, on peut dire, hein, de contrat social du Rojava, l'expression démocratique des citoyens, la parité, également l'éducation, c'est-à-dire... Avant, dans la région, il n'y avait qu'un seul système d'école, c'était le système arabe du régime de Damas, où l'arabe était obligatoire et le kurde était interdit, par exemple, à l'école. Ils ont mis immédiatement des panneaux dans toutes les trois langues sur les routes, parce qu'il y a trois langues officielles au Rojava, c'est le syriaque, le kurde et l'arabe. Voilà, dans toute la vie quotidienne, les trois langues sont à égalité. C'est évidemment un grand changement.
C'est-à-dire que ce qui se passe au Rojava, c'est une idée kurde à la base. Mais le nord de la Syrie n'est pas peuplé uniquement de Kurdes.
Sûr.
Les Kurdes sont majoritaires dans certaines parties, certaines régions, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, d'autres populations, d'autres cultures, des Arabes, des musulmans, des chrétiens. Et ce qui fait que, depuis quelques années déjà, les Kurdes du nord de la Syrie ne réclame plus un État kurde pour les Kurdes, mais essaye de mettre en œuvre ce projet politique assez enthousiasmant à l'intérieur des frontières actuelles, en fédérant toutes les populations et toutes les cultures qui sont dans le nord de la Syrie.
Exactement, les Kurdes de Syrie ne cherchent pas du tout à établir une indépendance. Depuis le début, ils ont expliqué qu'il fallait, dans le cadre de l'État syrien, arriver à une fédération avec des régions autonomes où toutes les cultures, parce que tout le Moyen-Orient est une mosaïque de peuples, et donc le principe du Rojava, c'est que tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance ethnique et quel que soit leur sexe. Et à partir de là, mettre en œuvre l'application de cette égalité.
Nous ne sommes pas un État. Nous sommes une administration autonome.
Arte. 9 novembre 2018.
Le 21 janvier 2014, nous avons annoncé l'auto-administration démocratique du Rojava avec toutes les composantes de la société qui y ont adhéré, kurdes, arabes et syriaques. Et nous avons établi un contrat social reconnu par tous, par consensus. C'est un modèle pour une Syrie de demain. Nous souhaitons une Syrie décentralisée.
C'est un projet qui peut paraître utopique dans une région qui est complètement à la merci de jeux entre les grandes puissances qui font des alliances, défendent des alliances en fonction de leurs intérêts. Donc il y a les États-Unis qui interviennent, il y a les Russes qui interviennent, il y a la Turquie qui intervient, les Français un tout petit peu. Voilà.
Donc c'est... Le premier ennemi, c'était l'État islamique, vous l'avez dit, Daesh. Et pour combattre Daesh, les Kurdes ont reçu le soutien militaire de la coalition internationale, dont font partie les États-Unis et la France. Mais alors, le deuxième ennemi que vous avez cité, c'est la Turquie. Et là, ça se complique parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, et donc c'est censé être un allié des États-Unis et de la France. Mais alors, qu'est-ce que vient faire la Turquie dans cette histoire ?
Le président Erdogan, il en veut beaucoup aux Kurdes pour tout ce qu'il leur représente, en fait. Il en veut surtout beaucoup au PKK.
Donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui est la branche kurde en Turquie.
Ouais. Pour tout ce qu'il représente, qui est complètement contraire, justement, à son système de pouvoir. En juin 2015... Erdogan avait, de fait, perdu la majorité au Parlement. En fait, sa tactique a été de déclencher une espèce de guerre civile à l'intérieur de la Turquie. Il a créé un tel climat d'insécurité dans le pays et de peur qu'il a rappelé à des élections en novembre. Et en novembre, il a obtenu cette majorité qu'il n'avait pas eue en juin. Et donc, à partir de là, il a écraser les villes kurdes, il les a écrasées avec des chars, il a limogé tous les maires kurdes de toutes les villes kurdes, il les a remplacés par des administrateurs de son parti, l'AKP. Son projet est un projet de devenir le leader dans la région des musulmans, en fait, des pays musulmans. Donc il y a une réelle opposition total des projets, et Erdogan redoute complètement que cette région autonome kurde du nord de la Syrie puisse prospérer et éventuellement devenir un modèle pour les autres régions de la Syrie, et pourquoi pas pour le reste du Moyen-Orient, puisque les mêmes problèmes existent dans tout le Moyen-Orient.
Et notamment puisse servir de modèle pour...
Turquie elle-même, évidemment.
Pour la Turquie et pour le PKK, puisque le PKK est considéré comme une organisation terroriste par le pouvoir turc et par la suite par d'autres pays comme les États-Unis.
Et la France.
Et la France. Or, il se trouve que derrière le Rojava, il y a quand même le PKK qui aide très fortement les Kurdes du nord de la Syrie.
Évidemment que le Rojava est très fortement influencé par les théories sur la question fédérale, sur l'égalité des femmes, etc., qui sont prônées par le PKK. Donc c'est un ennemi total pour le président Erdogan. Oui.
D'où les offensives passées contre les Kurdes en Syrie du Nord et la possible offensive qui est annoncée pour éviter une contagion de ce qui se passe au Rojava vers le sud de la Turquie et chez les Kurdes turcs, c'est ça ?
Ben oui, parce que Erdogan depuis longtemps veut envahir le Rojava. Il ne peut pas. Alors il ne peut pas parce qu'il est tenu en laisse pour l'instant par les États-Unis, parce que les États-Unis ont besoin des Kurdes et des FDS en général, parce que maintenant, dans les FDS, les forces
démocratiques syriennes, qui sont les forces militaires qui allient les milices kurdes, YPG et YPG, et d'autres milices
d'autres
non kurdes.
Et maintenant, concrètement, dans les FDS, il y a 60% d'Arabes.
Et ce sont ces forces démocratiques syriennes que la coalition internationale utilise
absolument, c'est
en première ligne contre Daesh.
Exactement, et ce sont elles qui ont mené la bataille de Raqqa, qui ont libéré Raqqa, et ce sont elles qui se battent actuellement à Deir ez-Zor. Une des dernières villes tenues par l'État islamique vient de tomber, Hajin, mais ça a coûté au FDS 500 combattants et combattantes. C'est un prix humain énorme que les États-Unis ne veulent pas payer, avec leurs propres soldats évidemment. Donc ce sont les Kurdes et les Arabes des FDS qui font le travail. Et tant que ce travail n'est pas terminé, tant qu'il reste des poches de l'État islamique, les USA tiendront en laisse Erdogan sur la question de l'attaque du Rojava. Mais bien sûr, la question se pose, quand toutes ces poches seront tombées, qu'est-ce qui va se passer ?
Voilà.
La
grande peur des Kurdes et des forces démocratiques syriennes, c'est qu'une fois que l'État islamique sera défait, la coalition internationale les laisse tomber.
À la minute où les États-Unis se retirent ou n'assurent plus la protection du Rojava, Erdogan va les attaquer, ça, ils le savent très bien.
Les États-Unis et la France, qui est aussi présente.
Et la France, qui est présente de façon extrêmement marginale, mais il y a quelques 200-300 forces spéciales qui sont principalement dans la région de Raqqa.
Alors, un des angles morts de ce conflit, vu d'ici en tout cas, c'est les relations entre le Rojava et le régime de Bachar el-Assad. On a l'impression qu'il y a une espèce de statu quo entre Damas et le Rojava, parce que l'ennemi principal, c'était effectivement, on l'a dit, l'État islamique, puis maintenant la Turquie, pour le Rojava. Et de son côté, Bachar el-Assad, il a a priori déjà fouetté les islamistes, les rebelles. Et donc, on a l'impression qu'il y a une espèce d'alliance objective entre le Rojava et Damas.
Ce sont des rapports, des relations complètement tactiques des deux côtés. Bachar el-Assad ne souhaiterait qu'une chose, c'est balayer les Kurdes et reprendre le contrôle. Il l'a dit plusieurs fois qu'il récupérerait chaque parcelle de la Syrie.
Oui, parce que c'est quand même un territoire de la Syrie qui est en train de lui échapper un petit peu.
D'échapper à son contrôle. Et c'est évidemment tout à fait contradictoire avec le type de régime complètement autoritaire et extrêmement centralisé que son père avait mis en place et qu'il a perpétué en réprimant toutes les oppositions, y compris en les massacrant. Hein.
Voilà.
En 82, il y avait un peu trop de frères musulmans, un peu trop remuants à Hama, qui est une ville de Syrie. Il a simplement bombardé la ville. Il a mis un tapis de bombes sur la ville, la population civile et tout, sa propre population syrienne.
Ce qui fait que tout le monde, maintenant, veut abattre Bachar el-Assad, sauf apparemment le Rojava.
Non, il n'y a aucune alliance idéologique entre le Rojava et Bachar el-Assad. C'est vraiment strictement une alliance tactique, de même qu'il n'y a pas d'alliance idéologique avec Donald Trump et l'état-major de l'armée états-unienne, mais il y a une alliance tactique contre l'État islamique. Les Kurdes essayent de survivre, en fait, là, dans cette affaire. Ils essayent de survivre et d'avancer, de continuer à avancer le plus possible dans leur projet démocratique, de convaincre de plus en plus, parce qu'ils pensent que plus leur projet se consolidera dans le nord de la Syrie, plus d'autres régions de la Syrie viendront vers eux, en fait, comprendront qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir un système vraiment démocratique en Syrie.
Mais pour l'instant, le Rojava ne peut pas se passer de Damas. Par exemple, il y a des puits de pétrole, mais il n'y a pas de quoi le raffiner. Donc le pétrole est envoyé à Damas, enfin dans des raffineries dans le reste de la Syrie. Et ensuite, le régime syrien renvoie du pétrole raffiné au Rojava.
C'est le problème de cette région qui était une région maintenue dans un système où il n'y avait que l'agriculture et l'élevage. Il n'y avait aucune industrie. Aucune vraiment, mais le commerce ne se fait pas directement, en fait. Ce n'est pas directement l'État syrien qui achète le pétrole brut au Rojava, ce sont des intermédiaires qui l'achètent et qui le revendent, etc. Enfin, rien ne se fait vraiment directement. Donc c'est une situation très très ambiguë. Par exemple, dans la ville de Qamishli, il y a toujours des troupes syriennes qui tiennent une partie du centre-ville, qui tiennent l'aéroport, et le reste de la ville et tous les villages alentours sont tenus par les Kurdes. Mais c'est une espèce d'obligation pour les Kurdes. Par exemple, s'ils prennent l'aéroport, ce qu'ils pourraient faire très facilement, il n'y a plus d'aéroport.
Parce que
l'État syrien retirerait la licence de fonctionnement. Alors, c'est une espèce de statu quo. Il y a des tentatives de négociation qui ont été commencées en juillet. Un groupe de négociateurs et négociatrices du Conseil démocratique syrien, qui est la branche politique des FDS, Force démocratique syrienne, est allé négocier à Damas pour essayer de faire avancer la question de la démocratisation de la Syrie, de l'autonomie, etc. Et la porte s'est refermée très très rapidement. Le régime n'accepte absolument pas l'idée de renoncer à un régime centralisé avec un seul chef, etc. et de passer à une fédération avec des régions autonomes qui aient des pouvoirs économiques, qui puissent gérer ses revenus, etc. Avec la parité, avec l'expression démocratique. Ça, c'est en fait inacceptable pour Bachar al-Assad.
Donc si je comprends bien, pour le Rojava, l'ennemi d'hier, c'est l'État islamique. L'ennemi aujourd'hui, c'est la Turquie. Et demain, ce sera peut-être Bachar el-Assad.
Oui, le Rojava a beaucoup, beaucoup d'ennemis, effectivement. Oui. Oui.
Alors dans tout ça, dans tout ce bordel géopolitique, le projet politique qu'on a dit, un projet tout à fait enthousiasmant, écologiste, féministe, anticapitaliste, libertaire, il en est où? Ça arrive à se mettre en œuvre au milieu de tout ça?
Ben, étonnamment, malgré toutes ces pressions militaires, économiques et autres, effectivement, ça avance. Alors, c'est quelque chose qu'on a constaté par rapport à l'année dernière. D'abord, il y a une prospérité qui est nettement plus importante cette année que l'année dernière.
Prospérité économique.
Économique, oui. Et moins de pénuries. Par exemple, l'année dernière, il y avait des queues interminables devant les stations d'essence. Cette année, il n'y a plus de queues. Il y a du pétrole. Il y a du gasoil, et ce qui est très, très important pour le fonctionnement de l'économie locale. Ils ont eu des récoltes extrêmement abondantes cette année, donc... Il y a même des travailleurs syriens qui viennent d'autres parties de la Syrie pour travailler comme travailleurs saisonniers dans les champs au Rojava. Ça fonctionne bien, enfin, je veux dire, les conseils législatifs des villes, tout ça fonctionne, et il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de rupture réelle. Bachar al-Assad n'a pas réussi à faire basculer les principales tribus arabes qui soutiennent le projet du Rojava et qui sont ralliées au projet du Rojava. Évidemment, tout ça est fragile. On ne peut pas savoir à quel moment certains ne vont pas être achetés par le régime, par différents moyens, que ce soit de l'argent, des postes ou des privilèges, ou etc. Tout ça est fragile. Donc ça peut.
Mais pour l'instant, ce projet politique du Rojava tient parce qu'il est soutenu par la population, par Absolument. Les Kurdes, et pas seulement par les Kurdes, pas aussi les autres.
Pas seulement par les Kurdes, parce que s'il était soutenu seulement par les Kurdes, il pourrait pas tenir à Manbij, par exemple, qui est une ville où il y a 70% d'Arabes.
À l'ouest du Rojava, donc près de la frontière avec la Turquie.
À l'ouest de Kobané, voilà. Et à Manbij, ça fonctionne très très bien. Le conseil législatif, l'entente entre... C'est assez marrant d'ailleurs, parce que il reste une famille arménienne. Parce qu'il y a des Arméniens aussi au Rojava. Eh ben, elle a sa représentante au conseil législatif. Donc il y a vraiment un vrai souci de donner les mêmes droits à tout le monde et que personne ne soit frustré, ni sur les questions de représentation, ni sur la question de la langue, de la scolarité, de la parité homme-femme, etc. Il y a un vrai souci de ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et les gens découvrent un fonctionnement démocratique et ça leur plaît. Ils aiment bien.
Le Rojava entre compromis et utopie, c'est votre article, Mireille Court, coécrit avec Chris Den Hont. Et pour aller plus loin, il y a aussi un bouquin sorti l'année dernière, La commune du Rojava, l'alternative kurde à l'État-nation, coédité par Critica et Sileps. Et puis, vous faites des films aussi. Et le premier, c'est Une utopie au cœur du chaos syrien. Et on peut trouver ça sur YouTube.
Parfaitement, sur YouTube et sur le site d'Orient 21, qui est un excellent site.
Qui est dirigé par notre ami Alain Grèche.
Voilà, absolument.
Merci, Mireille Court.
Merci à vous.
La révolution du Rojava est connue comme la révolution des femmes. Ici, au nord de la Syrie, la place des femmes est unique. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nous n'avons pas donné ces droits aux femmes. Ce sont les femmes qui ont conquis ces droits avec leur propre lutte.
Nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque deux ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure.
Donald Trump.
Et nous avons gagné contre le groupe État islamique.
19 décembre 2018.
Nous les avons battus. Nous les avons bien battus. Nous avons repris les terres. Et maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à la maison.